At the Bank of Santander, they've created Stan, a smart bot that can predict the future of remortgaging.
All right, Stan, will my mortgage rate go up?
1955 was the last time Newcastle won the cup.
No, and try not to mumble.
Playing, let's get ready to rumble.
Oh.
Meanwhile, at Santander, they can't predict your future, but they'll help secure it with great mortgage rates fixed for up to 10 years. See what's possible at Santander.
Early repayment charges apply. Lending subject to status and criteria. Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.
Vous écoutez
RMC.
RMC. L'After Foot.
Nicolas Jamain.
Et oui, on est ensemble jusqu'à minuit avec Jonathan Macardy, avec Damien Perrinel, bien sûr. Dans un instant, on parle de Rennes, bien sûr. On sera avec Pierre-Yves Leroux, notre correspondant en Bretagne, qui a bossé toute l'après-midi sur ce coup de théâtre. D'ailleurs, c'est pas forcément un coup de théâtre hein, quand on connaît les arcanes de ce club, les tensions entre Olivier Létang et Julien Stéphan. Appelez-nous tout à l'heure, supporter rennais, Monsieur Pinault père et fils, ont-ils fait le bon choix entre Létang et Stéphan? On parlera de Lyon dans un instant également. Tiens, je vous rappelle également qu'on vous fait gagner deux places, c'est le jeu RMC, deux places pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions, le 18 février. Dortmund PSG, pour cela il faut nous envoyer dès maintenant foot au 7 32 16. Si vous êtes sélectionné, vous serez là avec nous en fin d'émission. Messieurs, tiens, quelques infos avant la journée de demain. Bien sûr, tiens, info concernant l'OM qui reçoit Toulouse demain à 17h30. Jonathan, Radonjic et Mandanda étaient ce matin aux soins, mais ils postulent pour demain.
Tu stresses, hein, Jonathan?
Non, pas du tout. Hein?
Attends, c'est terrible, t'as une pression énorme quand tu joues à Toulouse maintenant. Tu peux être le premier
à domicile
à ne pas à perdre. Depuis trois mois.
Anti-OM, anti-marseillisme primaire.
Mais c'est pas ça. Je dis que t'as toujours une pression quand tu joues Toulouse désormais.
Il n'y a pas de pression. Marseille est deuxième. Marseille n'a pas de pression à avoir lorsqu'ils reçoivent Toulouse.
Tu vois ce que ça fait comme ça quand on parle de la Coupe d'Europe pour le Paris Saint-Germain? Bah voilà, c'est la même chose. Cette pression négative toujours.
T'as raison.
Pas de problème là-dessus.
Faut arrêter d'avoir peur. Hein? Qui a dit ça?
Un idiot?
Qu'est-ce que tu racontes là?
Je sais pas. Je sais pas qui c'est.
C'est Mbappé qui a dit ça. C'est pas un idiot.
Faut arrêter de jouer avec la peur.
Faut arrêter d'avoir peur.
C'est sûr que c'est.
Messieurs, également, ce sera sans Dario Benedetto, hein, blessure au tendon d'Achille.
Mais tant mieux qu'il le fasse reposer, les cramer.
Est-ce un mal ou pas?
Non, mais en ce moment, il sert plus à rien, Pipa. Il faut qu'il fasse du frais. Bah, tu joues avec Valère Germain. Mais pour l'instant, ça ne sert
plus.
Non, mais je vais vous dire.
Bien mieux.
Moi, vous savez l'amour que j'ai pour Pipa.
Il s'est pas joué tout seul en pointe, Valère Germain.
Écoute, ça fait deux mois qu'il est rincé, qu'il est friconfit. Ils l'ont fait reprendre beaucoup trop tôt. Alors il est arrivé avec le transfert, l'attente, etc. Mais il n'était pas prêt pour reprendre en Ligue 1. Il a joué, il a serré les dents. Ce que je sais, c'est que il est totalement cuit et que là, il est nul parce qu'il est cuit. Donc
mets-le
sur le côté
question,
et laisse-le un peu faire de frais.
À date aujourd'hui, si on te demande s'il a réussi sa saison, Benedetto.
Non.
Pour l'instant, oui, je trouve.
Mais
pour un joueur qui découvre l'Europe, qui s'adapte, qui pour la première fois vient en Europe, qui découvre un nouveau championnat, qui joue, qui arrive blessé, qui commence sa saison blessé, il en est à 7 buts en Ligue 1, je trouve ça très honorable.
Est-ce qu'on s'est pas un peu enflammé sur lui,
sur les
premières prestations?
Je rigole, tout le monde lui est tombé dessus. Avant même qu'il mette un pied sur le terrain.
Jonathan.
Après le match contre Nantes.
Jonathan.
Après le match aller contre Nantes.
Ça compte pas, ça.
Non, je me souviens très bien contre Nantes. Tout le monde a raté le pénalty, ok, mais tout le monde disait quand même, il a du foot, il a des appels de balle.
Ouais, et puis après, quand il enchaîne les buts, pareil.
Juste, tout le monde le sait, mais Daniel m'a quand même fait parier un déjeuner dans un resto étoilé qui marquait pas 10 buts dans la saison.
Bah, il va peut-être gagner, Daniel.
Avant même qu'il joue. Bah non, il va bien sûr que non, il va pas gagner, c'est bon.
Mais écoute, on verra.
Il va refaire du frais, il va revenir, il va recommencer à être bon, il y a pas de souci. Je vous rappelle que d'autres médias disaient, mais c'est qui, pourquoi recruter un avant-centre qui a 29 ans, qui a jamais joué en Europe, qui est blessé? On en a entendu des conneries. Donc ce qu'il a dit, que là, il y a quand même un juste milieu. Moi, j'ai jamais dit comme certains. Il y a quand même certains supporters marseillais qui sont un peu partis en vrille, qui disaient oui, on a pris meilleur qu'Icardi. Non. Benedetto est loin d'avoir le niveau d'Icardi. En tout cas, Benedetto est loin d'être à son meilleur niveau en ce moment. En ce moment, il est mauvais, il faut le dire. Il ne met plus un pied devant l'autre parce qu'il est rincé. Donc que là, j'espère juste une chose, c'est que Villas-Boas le mette un petit peu sur le côté, qu'il lui refasse faire du frais, qu'il récupère bien comme il faut de son talon d'Achille, qu'il puisse voilà.
Son tendon d'Achille, t'as vu?
Talon.
Souvent, on fait l'erreur.
Ouais, talon d'Achille.
Il y a un talon d'Achille, c'est une expression, et ça, c'est le tendon d'Achille.
Ouais, c'est ça. Alors, qui récupère son tendon d'Achille, qui refasse un petit peu de frais. Et moi, je me fais pas de soucis. Il va revenir et sur les 7-8 derniers matchs de la saison, il est capable de mettre 5-6 buts. Il n'y a pas de problème là-dessus.
J'espère que l'OM sera toujours autant en confiance et en réussite, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans une équipe qui a autant de réussite que Marseille à date aujourd'hui, il ne marque pas beaucoup de buts.
Tu sais, par
le problème, c'est que tu n'as pas de plan B. S'il a enchaîné les matchs, c'est que tu n'as pas de plan B.
Ah, ça, on est d'accord.
En numéro 9.
Ça, on est d'accord. Mais moi, je veux juste
en train de le cramer, ce joueur.
C'est que regardez contre Angers. Tout le monde s'accorde à dire que contre Angers, il a fait un mauvais match. Okay, contre Angers, il a dû toucher 5-6 ballons dans la zone décisive. Sur les 5-6 ballons qu'il touche, il offre deux caviar, mais c'est même pas caviar, c'est même pas le mot. Deux caviar, mais magnifique. Il y a cette déviation qui fait du talon pour Adonis, qui est seul face au but, qui tire dans le ciel. Donc il peut pas faire tout seul. Alors d'une part, il est pas bon en ce moment parce qu'il est rincé, mais d'autre part, il faut bien avouer une chose, et ça, je sais pas, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler une autre fois. Marseille en ce moment est deuxième. Marseille a des résultats positifs, mais on en parlait tout à l'heure, Damien. Ouais. Et Marseille, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait un bon match. Ça fait longtemps qu'offensivement, tout dépend de Dimitri Payet. Donc c'est très difficile quand tu joues numéro 9 dans une équipe qui a pas vraiment de plan de jeu offensif d'exister. Marseille est très fort sur beaucoup de domaines. Tchaleta Tsar fait une saison que je trouve extraordinaire.
Bah, c'est le triangle de Camara,
j'admire ton sens de la mesure.
Eh ben Tchaleta Tsar, je pense que pour la première fois, je comprends pourquoi elle a été payée aussi cher. Et je pense que ça va devenir un très très bon joueur.
D'ailleurs, on parlera des salaires des joueurs tout à l'heure dans un instant. Juste, vous me direz quels sont vos trois escrocs de la Ligue.
Je veux ajouter une chose là-dessus, Nico, parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens, et même chez nous, qui sont totalement idiots sur le sujet. Mais Tchaleta Tsar est vraiment en train de devenir un des meilleurs défenseurs centrales de Ligue 1. Il me fait une saison qui est extraordinaire. Il est très propre. Il y a très peu de joueurs, mis à part les défenseurs du Paris Saint-Germain, qui ont une relance aussi propre que la sienne. C'est vraiment en train de devenir un super joueur de foot.
Abdelhamid, Koscielny.
Abdelhamid, c'est pas mal.
J'aime bien Koscielny.
Bah, Tchaleta Tsar, c'est au-dessus d'Abdelhamid. Sans souci. Et nos amis sur le hashtag RMC Live, les supporters marseillais, dites-nous simplement ce que vous pensez de la saison de Tchaleta Tsar, et tu verras, Nico, qu'il y a une forte asymétrie entre les gens qui regardent vraiment tous les matchs de l'OM et les supporters de l'OM. Il n'y a pas plus exigeant, intransigeant avec les joueurs de l'OM qu'un supporter de l'OM, et les gens qui voient 10 minutes d'un match.
C'est vrai que je me faisais la réflexion, à chaque fois qu'on a un supporter marseillais dans l'after, c'est assez pointu. Les mecs ont toujours une analyse assez fine, non seulement du jeu de leur équipe, très objectif en général. Quand c'est pas bon, ils le disent. Quand c'est très bon, ils le disent. Avec toujours un esprit critique, qu'on aime bien ici dans l'after, bien sûr.
Mais j'aimerais bien.
Ville de football.
Supporter marseillais, dites-nous sur le hashtag ce que vous pensez de la saison de Tchaleta Tsar.
Mais là, aujourd'hui, ils vont te dire, et forcément, qu'elle est exceptionnelle. Après le match de Toulouse, si tu perds 0 contre Toulouse.
Non, je pense qu'ils seront peut-être plus mesurés, Jonathan.
Moi, je trouve que c'est en train de devenir des meilleurs défenseurs centraux.
Voilà pour OM Toulouse demain, 17h30. On débriefera ça demain soir, bien sûr, sur RMC. Tiens, Toulouse sans Amiens, sans vainqueur, sans Sanogo, sans Dosévi, et toujours sans Max Alain Gradel, bien sûr. D'ailleurs, parenthèse, messieurs, mettons un petit taquet à l'Olympique de Marseille.
Ah bon ?
Taquet personnel, l'OM qui a refusé l'accès à la conférence de presse d'un confrère du journal L'Équipe parce que Jacques-Henri Hérault n'a pas aimé un article intitulé et paru dans L'Équipe. Grégory Sertic, un gros salaire pour un minuscule temps de jeu. Hein, on parle de 180 000 euros mensuels. Il n'a pas joué cette saison du tout. Il n'a pas aimé, surtout Jacques-Henri Hérault, l'allusion aux agents communs qui lient Rudy Garcia à Grégory Sertic.
On peut réagir là-dessus ou pas ?
Bref, bien sûr. Attends, je te dis juste ce que j'en pense. Moi,
t'as anticipé, toi, depuis
un moment. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, un journaliste doit toujours faire son travail. Doit toujours avoir la possibilité de faire son travail. On interdit de refuser l'accès à une conférence de presse. Et ça, pour le coup, il faut bien le préciser. Le PSG l'a fait longtemps. Nantes l'a fait. D'autres clubs de Ligue 1 l'ont fait. Si on peut donner, nous, des infos dans l'after ici, c'est parce que les journalistes ont souvent accès aux conférences de presse et notamment aux joueurs.
Alors, c'est un scandale. Très franchement, ce qui vient de se passer là, c'est un scandale. Et ça illustre tout simplement la médiocrité et l'incompétence de Jacques-Henri Hérault. Et
en plus,
d'être incompétent, d'être un mauvais président, ça dénote sa mégalomanie et ses petites insécurités, sa volonté de contrôle. Il part en vrille totale. C'est une insulte au club, Jacques-Henri Hérault, qui soit président de l'Olympique de Marseille.
Et au journalisme.
Ça, je le dis depuis longtemps. Et ce qu'il fait aux journalistes, c'est simplement, à ce journaliste-là, c'est simplement, c'est petit, c'est nul, c'est médiocre et c'est pas du tout à la hauteur de l'Olympique de Marseille. Donc en tant que supporter assumé de l'Olympique de Marseille, je présente mes excuses à ce journaliste-là et j'espère tout simplement en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, je me sens excusé. Et ben moi je suis désolé en tant que sympathisant de l'OM, je m'excuse auprès de lui et j'espère simplement une chose, c'est que Jacques-Henri Hérault même s'il est nul cette saison, il a eu le mérite de pas trop l'ouvrir, j'espère juste qu'il va se refaire discret et qu'il ne se refera pas remarquer par des choses aussi stupides que ça.
Voilà.
Non, mais après, tu peux être en désaccord avec un journaliste. Je pense que le plus important, surtout, c'est de conserver un dialogue. Et là, quand tu te coupes d'un dialogue, à la limite avec la presse, parce que c'est quand même ce qui te donne l'opportunité de parler.
C'est ton interface avec tes supporters.
Donc à la limite, justifie certains choix ou explique-toi à travers ces journalistes. Mais là, de couper la porte et de couper ce dialogue, c'est peut-être pas la meilleure des solutions.
De toute manière, il avait donné le ton, Jacques-Henri, dès le début de la saison. Rappelez-vous de cette conférence de presse lunaire avec Uber Eats pour présenter le sponsor, alors que tous les journalistes qui étaient présents, et il y avait Flo Germain d'ailleurs, qui voulaient avoir des informations sur la saison, sur le recrutement. Rappelle-toi comment Jacques-Henri les avait traités. Non, Jacques-Henri est en train de perdre le pédale. Je pensais que ça allait mieux parce qu'on ne l'entendait plus, mais apparemment, ça s'est empiré. Donc j'espère juste qu'il va se refaire discret.
Voilà donc pour l'Olympique de Marseille. Tiens, Zvonimir Perez nous dit sur Hashtag RMC Live. Merci. Enfin, quelqu'un d'objectif, Jonathan, sur Chalet Tatsar et Benedetto. Oui. Vraiment merci, Jonathan. Ça fait plaisir au milieu de tous ces journalistes moutons. Ou supporters moutons.
Il faut dire qu'il y a beaucoup
qui prennent leur avis, opinion, sentiment pour la réalité. Merci. After RMC. Dans un instant, on parle de Rennes, bien sûr. Hein. Nos infos sur les raisons de l'éviction d'Olivier Létang. On attend encore un peu que Pierre-Yves Leroux remonte de la zone d'interview à Angers. Lui qui suit Rennes quasiment au quotidien depuis déjà des années.
Beaucoup de boulot hein, pour Pierre-Yves Leroux hein, cette semaine entre Angers et Rennes.
Et puis également, il nous parlera de l'ambiance au sein du vestiaire rennais. Et également, éventuellement, de qui pour remplacer Olivier Létang à la tête du stade Rennais. PSG Lyon également dimanche, messieurs. Dimanche soir, gros match, PSG Lyon. Quelques infos. Neymar s'est entraîné avec le groupe aujourd'hui. Premier entraînement collectif depuis 5 jours pour Neymar. Alors, pas sûr pour autant qu'on le voit dimanche soir.
Hein. Ça sert à prendre le risque.
Il faut faire quoi ? Faut le ménager, Damien, ou pas ? À 10 jours de Dortmund ?
Après, tout dépend de sa blessure, très sincèrement.
Douleur aux côtes.
Voilà, c'est une douleur aux côtes. Après, si c'est pas une côte cassée.
Non,
moi, je pense qu'il peut jouer. Il a besoin de ces matchs-là. Alors après, on va dire, oui, ne pas prendre de risques.
Mais s'il aggrave sa blessure dimanche.
Oui, mais alors dans ce cas-là, on fait jouer personne jusqu'au match de Dortmund, si on prend ce raisonnement-là. C'est-à-dire, le jour, c'est Diallo qui se blesse. Bah oui, au bout d'un moment, t'es joueur professionnel, faut quand même que t'enchaînes des matchs. Il n'y a pas que la Coupe d'Europe non plus. Dans la vie. Donc, non, pour moi, si il est en état de jouer et qu'il n'y a pas de risque de blessure d'aggravation, il faut le faire jouer.
Voilà. Et puis, je rappelle que le PSG est toujours privé de Marquinhos qui a repris la course, d'Abdou Diallo, Colin Dagba, Juan Bernat pourrait faire son retour dans le groupe et s'entraîner encore aujourd'hui collectivement. Lyon, messieurs, avant de parler de Rennes, bien sûr, dans un instant, appelez-nous, supporters lyonnais, supporters rennais aussi, au 32-16. Alors, Lyon, messieurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais Jean-Michel Aulas, il est amoureux de Rudy Garcia. Interview accordée au Dauphiné Libéré. L'avenir de Garcia à Lyon, la question est posée. L'avenir de Garcia à Lyon va-t-il dépendre d'une qualification pour la saison prochaine en Ligue des Champions ? Réponse de Jean-Michel Aulas. Nous constatons que Rudy a un savoir-faire que nous n'avions pas en termes de rigueur, de professionnalisme, d'expérience.
Les anciens, sympa pour les autres.
Genesio et compagnie, dur. Il a un sens tactique surdéveloppé. Même moi, j'ai du mal à suivre. Il faudrait vraiment que la foudre s'abatte sur le club pour que nous ne continuions pas avec lui au-delà en tout cas de la saison et de son contrat en 2021. C'est peut-être ça, Jonathan. Tu as du mal à suivre Rudy Garcia. Peut-être qu'il va trop loin. Il va trop loin pour toi.
Tu ne veux pas te mettre avec là ?
On parlera après, il a bien attaqué à l'OM également.
Non, quand il dit qu'en fait Rudy Garcia, il a de la maîtrise totale sur son groupe, tactiquement, sportivement, et qu'ensuite
c'est
il dit
pour ça qu'on donnait dans le pouvoir sportif.
Dans le recrutement,
ça reste Juninho et.
Non, il dit qu'il travaille de concert avec Florent Maurice et Juninho, il dit.
Non, et parce que les patrons, c'est quand même Juninho. Enfin,
moi, je te dis, franchement, c'est de l'esbrouf. Je regrette juste une chose, c'est que la révolution que.
Tu vois de la face ou pas, Aulas ?
Alors, en deux temps, je te réponds. La première chose, c'est que je regrette que la révolution que l'Olympique Lyonnais avait mis en place en début de l'été, où Jean-Michel Aulas devait prendre du recul, ne plus trop se mêler du sportif, tu vois, juste profiter, laisser Juninho un petit peu gérer, ça n'ait pas eu lieu, parce qu'il revient, il se sent obligé de parler, parce que ça va pas non plus très bien dans son club-là. Donc, il ressort la vieille technique, tu vois, du paratonnerre, où il prend un petit peu la foudre, il est obligé de lui de parler, et là, il nous sort des saucisses, parce que franchement, les résultats de Lyon avec Rudy Garcia, c'est pas encore ça. Il y a un petit peu du mieux par rapport à une période qui était quand même très médiocre, mais c'est pas non plus à la hauteur du niveau et du potentiel qu'a son effectif là. Après, la deuxième chose, pour mettre un peu d'eau dans mon vin, je te dis, moi je peux comprendre ce que dit Jean-Michel Aulas, parce que même si j'ai vraiment été très critique envers Rudy Garcia, ça n'a jamais été contre l'homme. C'est plus sur ses capacités à, d'une part, organiser son équipe quand il était à l'OM, et d'autre part, à faire des recrutements totalement foireux. Moi, ce que je vois juste, c'est que Rudy Garcia, ça a l'air d'être quelqu'un qui est extrêmement sympathique. Ça, je pense que c'est typiquement le genre de personne que tu rencontres, tu vas boire un verre avec lui, ça peut vite devenir ton copain.
Ah ouais.
Ça, je l'ai toujours dit. Et je pense que les deux personnalités de Garcia et Aulas sont faites pour s'entendre. Parce qu'il y a une adéquation, tu vois. C'est typiquement des atomes crochus entre deux personnalités. Après, attention. Les deux ont l'air d'être super bonnards, bon vivant, assez ouverts. Moi, je trouve. Par contre, attention. Pour conclure, après, je laisserai la parole à Damien. Attention. On sait très bien qu'il y a toujours une lune de miel avec Rudy Garcia. Une lune de miel qui va durer la première saison. Attention après, parce que ça finit toujours en octobre.
C'est ça, en fait.
Mais, c'est ça, en fait. Bah, justement, je veux rebondir là-dessus. Je ne comprends pas du tout le timing de cette intervention de Jean-Michel Aulas. Alors tout ça pour camoufler un peu le match nul contre Amiens à domicile il y a deux jours, c'est ça? Parce que on sait très bien qu'avec il lui reste quoi, un an de contrat, Rudy Garcia, il me semble.
C'est en 2021, il est là.
En 2021. Quel est l'intérêt aujourd'hui de se prononcer sur un avenir radieux avec Rudy Garcia,
alors même contractuellement? Alors que tout ne va pas si bien.
Alors que tout ne va pas si bien. On sert quoi? On sait très bien que la qualité principale, et ça fait partie d'une qualité super importante chez un entraîneur, c'est une qualité d'orateur. Et Garcia, on peut dire tout ce qu'on veut, mais lorsqu'il l'a, bien sûr. Et les présidents, ils aiment bien entendre ça. Quelqu'un qui vont les impliquer dans le jeu, leur essayer de faire comprendre certaines choses. Mais aujourd'hui, force est de constater que si on est pragmatique, la qualité de jeu de l'Olympique, c'est pas terrible. Que, alors certes, il y a une amélioration des résultats par rapport à ce qu'on a eu avec Silvinho. Mais qui se régale aujourd'hui lorsqu'il regarde un match de Lyon?
J'ajoute une chose qui, je pense, c'est du Jean-Michel Aulas. Et ça, encore une fois, ça mettre au crédit de Rudy Garcia, c'est que je pense que Rudy Garcia a quand même un très fort talent pour arriver à amener des jeunes à maturité. Il a fait l'OM avec Max Lopez, avec Bouba Camara. Il a quand même ce don-là, tu vois, de bien incorporer les jeunes, de pas y aller trop rapidement.
Il le fait avec Maxence Cacré, avec Ryan Cherki doucement.
Et ça, je pense que ça parle à la fibre lyonnaise de Jean-Michel Aulas.
Ouais, c'est sûr.
Je pense que c'est un très gros point pour lui.
Non, en plus, non, il le fait.
Ça coûte moins cher et ça peut rapporter gros.
Et puis, il le fait pas n'importe, comme tu l'as dit, il le fait pas n'importe comment, parce que je pense que le Maxence Cacré, il le fait jouer parce qu'il mérite de jouer et tout de suite. Il lance un jeune parce que ça lui apporte un plus dans son effectif.
Mais il a toujours été bon pour faire
intelligence.
Ça. Regarde à Lille avec Eden Hazard, même si Eden Hazard, c'est Claude Puel qui l'a façonné. C'est quand même lui qui l'intègre en équipe première.
C'est un phénomène, Eden Hazard.
Oui, mais il l'intègre d'une manière intelligente. Ouais, Maxime Lopez, qui avait fait des débuts en fanfare, il le gère intelligemment. Bouba Camara, tout le monde savait que c'est au centre qui suivait les jeunes de l'OM. On savait tous que c'était un phénomène, mais il l'intègre intelligemment. Il a à la fois ce mélange entre avoir l'audace de s'appuyer sur des jeunes, mais de savoir les sortir et de pas leur mettre trop de pression. Et ça, c'est à mettre à son actif.
Alors après, je mets un bémol à ce que je dis, un super orateur, comme sa conférence de presse d'aujourd'hui, il me semble, quand il dit on lui pose la question, je crois, contre les gros, il n'y a pas eu de résultat. Il dit, ah si, on a presque ouais, gagné.
C'est ça,
je ne
suis pas d'accord avec toi, c'est pas un très bon communicant, dit Garcia.
Non, mais en interne, il est bon.
Tout ce qu'il ne faut pas faire, en interne.
En interne, il est très bon, je pense.
Mais sincèrement, ce n'est pas le gars hyper affable et souriant en conférence de presse.
En conférence de presse, non.
Qui trouve des excuses là où il n'y en a pas, qui refait les matchs et les décisions arbitrales.
Rappelle-toi, si on n'avait pas pris plusieurs fois 4-0, on serait la meilleure défense de Lyon.
Mais même aujourd'hui, enfin, j'ai pas la citation exacte en tête, mais c'est vrai.
Oui, il dit on a presque gagné.
On a presque gagné.
Mehdi, supporter du net avec nous, 32-16. Salut Mehdi, bienvenue dans l'After.
Salut Nicolas, salut à toute l'équipe.
Ouais, salut Mehdi. Est-ce que tu es amoureux, transi, comme Jean-Michel Aulas de Rudy Garcia?
Je pense que oui.
Ah non, mais la pilule, elle a du mal à passer, quoi. Je veux dire, j'en ai marre, quoi. Je veux dire, ça fait 5-6 saisons qu'on commence trop mal les débuts de championnat. On est tout de suite largué, on est obligé de faire des deuxièmes saisons de les remontadas, quoi, pour remonter au classement. Et puis là, ça, je pense que ça passera pas, quoi, parce qu'à un moment donné, l'écart est réduit et puis on avance dans le championnat et puis là, il n'y a pas de fond de jeu, quoi. Je veux dire, ça fait 4 mois qu'il est là, Garcia, à chaque fois, moi, il me fait rire, quoi. Je veux dire, le carnet de chair qui était ouvert cet hiver, quand tu vois que Villas-Boas avec deux joueurs de qualité et un peu d'envie, ils sont à plus de 10 points de nous, alors qu'au début de la saison, tu m'aurais dit que l'OM serait à 10 points de nous à 15 journées de la fin du championnat, j'aurais rigolé, quoi. Je veux dire, j'aurais dit, mais il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, comment ça se fait qu'on soit largué autant, et que là, on était revenu un peu dans le game, entre guillemets. On était revenu là, il y a deux journées, et puis là, on a pris un point sur 6, entre Nice et Amiens. Et là, on va aller au parc. Bon, moi, je dis la vérité, ça sent le tarif, quoi. Ça sent 3 ou 4 euros, il n'y aura pas photo, quoi. Si Paris joue à son niveau, voilà. Donc, à un moment donné, on ne va pas s'exonérer. Moi, je trouve que le recrutement, il est raté. Thiago Mendes, ça coûte une blinde, il n'est pas bon. Andersen, on ne va pas en parler. Je suis venu ici sur vos antennes dire qu'il fallait aller tard à gauche. Et quand je vois Ricardo Rodriguez partir au PSV et que trois journées après, je vois encore une fois Marcel prendre un carton rouge.
Ah, ça fout la haine, j'avoue là. Quoi. J'avoue, là, le timing.
C'est pas possible, quoi.
Mais Mehdi, au-delà de ça, surtout, sur cette déclaration de Jean-Michel Aulas, que je trouve l'incohérence surtout, c'est avec la, il a pris la parole il y a 2-3 semaines, il me semble, en disant qu'il avait cédé aux supporters lyonnais justement.
Et pour Bruno Genesio.
Pour Bruno Genesio.
Ah, pour Genesio,
ouais. Voilà. Et là aujourd'hui, il vient nous dire que Rudy Garcia est un modèle de professionnalisme et d'acharnement, enfin que tactiquement c'est un maestro. Donc
en là, fait, il parle c'est le Scorsese du foot.
C'est incohérence c'est entre les, ces deux déclarations, je trouve, pourtant à intervalles très courts.
Il y a toujours une lecture à faire hein, de ce que dit. Il y a toujours un timing et une raison. Peut-être qu'on l'a pas encore la raison.
Bah, si, on va le faire, on va le dire après.
C'est quoi ta raison?
Attends, mais laisse finir.
Vas-y, Mehdi.
Ouais, non, juste pour répondre à Damien, c'est juste que dans ce cas-là, si c'est un Scorsese du foot, bah, il a qu'à remonter au classement, quoi. Il a, à un moment donné, moi je veux bien.
Si Scorsese a fait des mauvais films aussi, hein, des films qui n'ont pas marché, hein, qui n'étaient pas dans les classements de box-office. Hein.
Le problème, c'est qu'à Lyon, t'as l'habitude de faire des romans, des 5 films à retournement, quoi. Je veux dire, depuis 5-6 ans, tu dis la fin va être géniale et tout. Mais là, je me rappelle très bien, je tapais sur Bruno Genesio, mais au moins là, on a. Il y avait de temps en temps, je me rappelle, un super match contre Monaco, la Manita
contre Paris. Mehdi, t'as raison, Mehdi. En fait, Lyon, Lyon, c'est un mauvais film pendant 1h40. Et voilà. Puis il y a 5 minutes magistrales à la fin, tu vois, c'est incroyable, ça, tu restes là-dessus.
C'est un peu voilà, ça. Non,
et l'année après, ça recommence. Tu vois, le 2 au cinéma, c'est nul.
Mais tu retournes quand même.
Cliffhanger, une chute incroyable.
S'il y a au moins 5 minutes de bien, c'est toujours mieux qu'un film français de Tapif ou un truc comme ça. Hein.
Non, mais ça, c'est gratuit, monsieur. Un peu, c'est nul. Ok.
Non, mais voilà, après, il y a plein de choses qui vont pas. J'attends beaucoup du petit Guibarèche, moi, qui vient d'arriver, mais. Le temps qu'il arrive, ça sera pas avant la saison prochaine. Et puis c'est pareil, hein, c'est toujours pareil. Si Lyon, il y a pas de Ligue des Champions, bah il y a un peu moins de rentrée d'argent et puis tu peux moins garder les joueurs, quoi.
Ouais.
Je veux dire, pour ça, Dembélé sans Ligue des Champions, avoir sans Ligue des Champions, ça va dire salut, quoi.
Mehdi.
Ils vont dire salut à ses. Ouais.
Toi, tu interprètes comment la sortie de Jean? Tu penses qu'il a fait pourquoi il a fait cette sortie Jean-Michel Aulas?
Ah, je pense qu'il met un petit coup de pression. Il dit, comme je dis toujours, hein, Jean-Michel Aulas, quand il monte au front, c'est pour, entre guillemets, protéger le groupe. Mais je pense que le discours en interne, c'est les gars, maintenant, c'est à vous de... Moi, je vous défends en externe, mais vous, en interne, vous devez remonter... Vous devez remonter la barre, quoi.
Ouais, surtout, faut pas oublier que Rudy Garcia, après le match d'Amiens, il a quand même mis un petit taquet à ses joueurs aussi, individuellement.
Hein. Oui, je pense qu'il a deux, voire trois de communications différentes. Il y a la communication interne, avec le vestiaire, dans ses bureaux, avec ses dirigeants, son staff, et également avec la presse, parce que je pense que ce qu'il dit là, ça.
Ouais.
Voilà. Aussi, c'est excessif. Mais il s'en fout de ce qu'on pense et de ce qu'on dit d'ailleurs.
Il y a deux choses. Je pense, la première chose, c'est que, indirectement, il en profite pour renouer ici. Il donne sa confiance comme ça à Rudy Garcia. C'est pour dire aux joueurs de se bouger le cul. Mm-hmm. Voilà. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui, pour l'instant,
vous avez un coach, exceptionnel.
Maintenant, tout est dans vos mains. Et n'oubliez pas une chose. Rudy Garcia a signé, même, il est en fin de contrat en 2021. Il y a quand même un engagement contractuel avec lui. C'est un club qui est coté en bourse. T'es obligé quand même de maintenir une certaine stabilité dans le discours. Ouais, c'est important raison. Le cours de l'action, c'est bien important sûr. Ce que tu dis.
C'est vrai qu'on essaie quand même de comprendre la raison, quoi.
Tiens, messieurs, Mehdi, reste avec nous au passage également. Il a mis un tac à l'OM, hein, il aime bien faire ça aussi. Il a dit si l'OM devait terminer devant Lyon, il devra respecter les règles du fair play financier pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. Je remercie l'OM de me donner l'occasion de dire qu'ils sont complètement en dehors des clous du fair play financier. Avec la bénédiction de la DNCG.
Là, c'est Nasser Al-Khalifi qui est content. Pour une fois que c'est plus sur lui et que c'est pour l'OM.
Non, ce qui m'a attaqué à l'OM et à la DNCG également, qui semble selon lui fermer les yeux, sauf que non.
Sans réaction.
Très bien.
Excuse-moi, Nico.
Vas-y.
Jean-Michel Aulas, il est comme ça. Mais après, moi, j'aime bien ces petits taquets parce qu'en fait, c'est de l'enfumage. Quoi, je veux dire, ça permet de justement, en renvoyant la balle dans le. En jetant de la poudre aux yeux, ça permet de détourner l'attention sur ce qui se passe dans le club. Quoi. Mais à un moment donné, on peut pas. S'exonérer de ce qui se passe. Et puis, il y a des joueurs, moi, ils sont plus au niveau, quoi. J'ai encore vu le match contre Amiens. Traoré, j'en peux plus. Cornet, c'est des joueurs qui sont.
Tiens, tout à l'heure, Traoré, c'est mon chouchou des plus gros salaires incroyables de Ligue 1. On en parlera dans un instant.
Ouais, mais en plus, le pire, c'est que Mino Raiola lui a fait un salaire qui augmentait avec le temps. Et lui, il est toujours plus aussi nul, de plus en plus nul.
Non, mais tout à l'heure, on va se marrer, les gars. Dans un instant, on va vous.
Bravo, Mino!
Voilà, il est fort, là, le Raiola.
Bravo!
T'aurais dû l'avoir comme agent, Damien.
Ah, mais c'est sûr. Ouais.
Tu me diras combien t'as gagné au maximum également, Damien, dans un instant.
Oui, évidemment. La même chose qu'à RMC, tu vois.
Tiens, également, Mehdi, bonne nouvelle. Je sais pas pour vous, Bruno Guimaraes arrive lundi. Ça y est, il joue contre l'Argentine.
Ça, c'est bien.
Dernier match de tournoi pré-olympique là, avec l'Argentine contre le Brésil.
Dernier
dimanche à lundi. Hop, il prend l'avion. Il arrive à Lyon.
falloir un peu de temps quand même hein, que le garçon. Ah,
je peux demander des renseignements à Jonathan sur Guimarães parce que moi j'avoue que j'ai.
Je t'ai dit, moi, je l'ai vu jouer.
Alors,
j'ai dit pas plus que ce que j'en ai vu. Je l'ai vu jouer 2-3 fois en Copa Libertadores. C'est un très bon joueur. Et il a une densité physique et il est méchant au duel et il a une très belle frappe. Ça m'a semblé être tout d'un très bon joueur. Après, je l'ai vu en Libertadores 2-3 fois. Mais c'est quand même ça m'a l'air d'avoir, tu vois, d'être le genre de joueur. Tu le vois une fois, tu te dis oui, lui, il a quelque chose.
Voilà. D'accord. Est-ce que c'est plus un Thiago Mendes ou un. Plutôt 6-8 ou plus un 8 qui se projette vers l'avant?
Plutôt un 8 voilà, qui se projette.
Ok, donc ça veut dire que. Ok, d'accord. Voilà. Parce que là, ça veut dire que Thiago Mendes jouera 6.
Si tu veux, c'est pas une sentinelle, quoi.
Non, très bien. Bah, parce que à chaque fois que je vois Thiago Mendes, moi, j'en ai marre. Je me dis, c'est pareil, ou 6-7
là. Ça devrait être une sentinelle, voilà, Thiago Mendes.
Ouais, allez, j'attends l'erreur de 4 singles.
Merci, Mehdi.
Ciao, Mehdi.
Merci, Nico.
Salut. Tu reviens quand tu veux dans l'after, avec plaisir. On t'accueille, bien sûr. Je vous rappelle, PSG Lyon, dimanche soir. À 21h. Ah, c'est dommage, j'avais quelques infos à donner encore. On va le faire juste après la pause avec Jonathan Macardy et Damien Perrinel, bien sûr. Dans un instant, on parle bien sûr de la situation du Stade Rennais. Olivier étant out. Julien Stéphan est-il complètement renforcé bien, dans cette prérogative?
Pourquoi j'appelle Julien? Hein, tu préférerais là qu'il s'appelle Julien?
J'ai dit Julien?
Ouais. Julien Stéphan?
Non, c'est peut-être lapin.
T'as dit Julien? Non, Julien.
Ah, d'accord, bon. Julien, peu importe, Julien. Si je te reprends à chaque fois, Jonathan, on n'a pas fini.
Julien,
oh, Jonathan. Jonathan. A tout de suite!
Oh, il est vexé.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Jamain.
Avec Jonathan Macardy, avec Damien Perrinel, bien sûr. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Allez, dans 15 minutes, Polo Breitner sera avec nous pour nous parler d'une première casserole qui est sortie.
L'excellent Polo.
Hollande. L'excellent Polo Breitner. Et également, le Stade Rennais, on attend pour être tout à fait transparent avec vous. Afterien, l'arrivée sur ces lignes, comme on l'appelle dans le jargon radiophonique, de Pierre-Yves Leroux, notre correspondant en Bretagne, qui va venir avec pas mal d'infos sur le Stade Rennais et décrypter également la raison de l'éviction d'Olivier Létang, alors que c'est incroyable. Les clubs français, un peu comme Marseille d'ailleurs, ont une capacité, une propension à flinguer leur bonheur, tu vois, comme ça, sur les déclarations, des décisions, c'est fou. Ouais. Tout va bien, mais...
Ouais, tout va bien à la surface hein, apparemment, mais
bon.
En interne parfois.
C'est beau, c'est plein de panaches, c'est une sitcom, c'est un peu, tu vois, ça fait penser aux anges de la télé-réalité.
Je ne sais pas de quoi tu parles, je ne connais pas.
Ah oui, bien sûr, mais moi tu vois, je regarde ces âneries.
Qu'on arrête de se mentir. Quand on passe dessus, on reste quand même 2 minutes. On fait, voilà.
C'est
et après, on zappe. Mais voilà, on reste quand même 2 minutes dessus.
C'est un peu malsain. Tu dis, c'est nul. Tu dis,
non. En fait,
quand tu regardes, c'est
que tu te sens intelligent.
Bah, c'est ça.
Voilà.
Tu te sens vraiment, t'as l'impression d'être un prix Nobel.
On va faire comme tout le monde, hein. Regarde les deux.
T'es en train d'insulter beaucoup de femmes de joueurs de footballeurs.
Pourquoi?
Beaucoup de femmes de footballeurs ont fait des
émissions
de télé-réalité.
Tu ne me regardes pas quand tu dis ça.
Je pense qu'Anthony
Martial.
Je pense sincèrement que pour faire ça, faut être un peu limite.
Tu sais qu'on m'a proposé ça.
Ouais, mais
on m'a proposé.
C'est vrai que tu passerais bien, toi.
Ouais, non.
Oh là là.
Mais non. Mais non, mais ça.
Fais-toi respecter, Damien.
C'est le beau gosse de la terre, Damien Perrinel.
Pas en France, aux États-Unis, on m'a proposé ça.
Tu vois, moi, c'est pas pire aux États-Unis.
60 millions, ça me suffit pas.
T'as refusé.
Oui, je peux pas. J'avais émission à After le soir, j'ai pas pu y aller.
C'est vrai que c'est bien mieux payé l'after, j'imagine.
Exactement.
Voilà. Mais c'est quand même bien plus respectable, faut se le dire aussi. Hein.
Messieurs, voilà, le journal L'Équipe a sorti aujourd'hui son traditionnel numéro sur tous les salaires des joueurs et entraîneurs de Ligue 1, et également joueurs et entraîneurs à l'étranger. Je vous ai lancé un petit défi avant de faire l'after ce soir, messieurs. Vous allez me donner vos top 3. Top 3 plus gros scandale de salaire de la Ligue 1. Je rappelle que sur les 14 joueurs les mieux payés de notre championnat, 13 sont parisiens. Le seul, Wissam Ben Yedder, s'est glissé à la 13e place d'ailleurs, avec 650 000 euros bruts. On parle en brut, c'est important de le préciser. Ouais. Et par mois, hein, salaire mensuel.
Tellement mérité pour Ben Yedder.
Damien, vas-y, ton top 3.
Le top 3 obligé, on ne peut pas en mettre plus.
Si,
il y en a plus. Hein. Non, mais dans l'ensemble, sinon, il y a au moins la moitié des joueurs qui sont surpayés en Ligue 1. Parce que le niveau moyen du joueur, pour moi, est. Voilà,
c'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, un joueur moyen de Ligue 1, il est à 80, 90, 100 000 euros.
C'est incroyable. Il n'y a aucune jalousie hein, de ma part quand je dis ça, mais c'est vrai que parfois, surpayer le joueur moyen, c'est peut-être ce qui nous met dans la difficulté.
Exactement.
Mais sinon, un petit focus sur. Pas sur un joueur, sur un entraîneur, sur Moreno. Quand même, bravo. Première expérience d'entraîneur, 270 000, c'est ça, par mois.
Ouais.
Derrière, je mets Mapou,
Yangambiwa,
parce qu'il a signé son contrat quand même il y a quelques années. Et déjà de signer à ce tarif-là, il y a 4-5 ans.
Rappelle-nous.
Chapeau. Il est à 280.
Ouais, je crois à 280 000 euros brut, ouais.
Et le dernier, Wesley Saïd, qui performe à Toulouse. Non, mais au-delà de ça, c'est-à-dire, bah, c'est, alors, ce n'est pas contre le joueur,
précisément
pas, aucunement, parce que je suis très content
la
de l'argent qu'il gagne. Exactement.
Budgétaire des clubs, en tout cas financière des clubs, qui
bien
est incroyable.
Sûr. Et c'est pas en tant qu'ancien joueur que je vais dire qu'un tel et tel est trop payé. Je lui dis, mais si tu gagnes ça,
raison,
mais,
hein,
mais bravo, et je suis très content pour toi que tu prennes ça. Maintenant, c'est un joueur qui venait de Dijon, quand même, et qui signe à Toulouse et qui a ce salaire-là.
Rappelle-nous.
Bravo. 110, il me semble.
C'est pas mal, hein.
110 000 euros.
120, ouais. Quelque chose à 10 000 près. Hein. Donc voilà.
Jonathan, je crois que je les connais, on peut les faire avant toi.
Kevin Strootman.
Évidemment. Voilà. 500 000 euros.
Ouais, c'est quand même énorme. Et en plus, ça a foutu la merde dans le vestiaire, donc d'autant plus. Je suis obligé
Il est très apprécié dans le vestiaire, Strootman.
Ouais, mais son salaire avait foutu un petit peu
Le
way. Je suis obligé de parler de Mapunyong Mbiwa parce qu'il ne joue pas. 280 000 euros, c'est énorme. Et il ne prend un joueur qui fait aucun match. En fait, il est payé à rien faire.
Ouais.
Et je suis obligé. Je sais qu'Arthur Robert m'avait interdit de le mettre dans mon classement, mais je suis obligé de le dire parce que c'est un petit peu ma marotte. Mais, Grégory Sertic, au salaire qu'il a, c'est un emploi fictif. C'est Pénélope Sertic, ce mec. C'est Pénélope Sertic. Et là, Damien.
180 000 euros.
Je te dis, je suis d'accord avec toi quand je dis bravo. Sauf que là, c'est l'OM. Et
ça te
comment,
fait mal.
Vu comment il est arrivé avec Rudy Garcia, mal. Avec les agents.
Mais
il a raison, c'est pas contre lui.
Mais demain tu lui fais ce chèque-là, mais tu vas tous les jours.
J'ai rien contre Strootman et j'ai rien contre Sertic, mais ça dénote encore une fois l'incompétence de la direction olympienne.
Et voilà,
et ça fait
c'est
quand même
ce
mal.
C'est ce dont on parle en fait.
Ça fait mal.
Moi, demain je te propose 50 000 euros brut par mois pour venir dans l'after et finalement on te met sur la touche. Tu vas quand même les prendre, t'as raison.
Je suis très idiot.
Oui, bien
donc
sûr.
Voilà, je trouve que Jacques Mariano est un idiot sur le coup pour les salaires. Et juste une dernière chose, petite parenthèse. Moi, j'ai envie de dire, parler d'un joueur qui n'est pas assez payé.
Allez.
Je vais parler de Florent Thauvin. Je trouve que quand je vois les salaires de beaucoup de joueurs et que je vois le salaire de Florent Thauvin.
420 000.
On va oublier qu'il est blessé, qu'il a pas joué. Je pense que Thauvin mériterait d'avoir un petit peu plus de ce qu'il a fait sur les deux, trois dernières saisons.
422 000 euros.
Et ben, je pense que c'est.
Les miens rapidement.
Proportionnellement par rapport à Strootman, il est sous-payé.
Les miens rapidement, mon champion Bertrand Traoré, 350 000 euros brut mensuel. Bravo Bertrand. Non, mon dauphin énorme, Loïc Rémy, 270 000 euros brut, plus gros salaire lillois. Et Fabregas, alors là.
Ah oui, j'aurais dû le mettre. Et oui.
Ouais, ouais.
Champion. Tout sur le CV, hein. Évidemment, il est éloquent son CV. 600 000 euros brut, il lui reste encore 2 ans et demi.
Mais au-delà de ça,
bravo Fabregas.
Quand tu regardes.
Qu'on parle de Rennes.
Vite fait, quand tu regardes le salaire des entraîneurs. En Ligue 1, aujourd'hui. Comment veux-tu que quelqu'un qui gagne 5, 6, 7 fois moins que son joueur peut-il dire à son joueur, écoute, maintenant, il faut que tu joues comme ci, il faut que tu ailles courir, il faut que tu fasses ça. C'est impossible, c'est trop compliqué.
Oui, effectivement. Voilà pour les salaires. Alors là, on va accueillir le plus gros salaire des RMC Sport.
Il paraît, ouais.
Il est à 2700 euros brut mensuel. Pierre-Yves Leroux est avec nous. Bonsoir Pierre-Yves.
Je pensais que j'avais été augmenté récemment.
Salut Pierre-Yves.
Ça, c'est dans un mois que tu le sauras. Bienvenue dans la
Salut Pierre-Yves. Pierre-Yves.
Bonsoir à tous.
En direct du stade Raymond Kopa d'Angers, on t'a commenté la victoire lilloise sur Angers, mais tu es là pour
avec
parler.
Avec un bon Loïc Rémy, je te signale.
Avec un bon Loïc Rémy, oui. Qui a une belle frappe, notamment au moment qui passe 20 mètres au-dessus du but.
Il était bon.
Pour parler de Rennes, bien sûr, hein, c'est un des clubs que tu suis depuis des années déjà, Pierre-Yves. Appelez-nous supporters rennais, bien sûr, au 32-16. Votre avis sur la décision de la direction rennaise de mettre d'écarter clairement Olivier Létang, arrivé il y a maintenant un peu plus de deux ans. Il était président exécutif du Stade Rennais et merci, au revoir. Appelez-nous, Rennes est-il sabordé en plein vol? Pinot a-t-il fait le bon choix entre Stéphane et Létang? D'abord, rappelons quand même que sous Létang, Rennes a vécu sa période la plus glorieuse quasiment, avec notamment une victoire en Coupe de France, avec deux qualifications européennes, un beau parcours en Europa League jusqu'en huitième de finale, et actuellement troisième de Ligue 1. Bon, Pierre-Yves, pourquoi Rennes s'est-il séparé d'Olivier Létang?
Eh bien, forcément, toi tu présentais ce qui était plutôt positif, et il y en a des choses positives depuis l'arrivée d'Olivier Létang en novembre 2017, mais c'est vrai qu'il y a aussi des éléments un peu plus complexes et qui sont nés notamment il y a quelques mois maintenant à la sortie de l'été, avec des tensions fortes entre l'entraîneur Julien Stéphan et puis le président délégué, en raison d'un mercato qui n'a pas trop plu à Julien Stéphan et qui a rappelé plusieurs fois fois que bien il n'avait pas eu les renforts suffisants par rapport au départ et par rapport aux ambitions qu'on lui demandait forcément au niveau du championnat. Donc il y a eu des tensions, vous en souvenez, on en a parlé souvent depuis quelques mois, des petites piques et résultat, bien deux hommes qui ne se parlaient quasiment plus hein, depuis quelques mois. Donc ça forcément c'est un élément qui est remonté rapidement aux oreilles de la famille Pinot. Et puis dans ce club en interne, il y a eu de nombreux départs aussi depuis deux ans maintenant. Et il y a des arrêts de travail, une ambiance qui est compliquée parce que
tu parles du personnel administratif également, hein, pas que des joueurs.
Voilà, du club là vraiment administratif effectivement parce que Olivier Létang, c'est un homme de caractère. Il a bousculé des choses forcément en arrivant. Il a amené de nouvelles méthodes de travail et ça a pas forcément fonctionné avec tout le monde. Et puis il y a ce timing qui peut paraître surprenant parce que c'est vrai qu'on se doutait qu'il y aurait une séparation, que l'un des deux partirait, soit Julien Stéphan, soit Olivier Létang. Et comme Julien Stéphan a été prolongé, on se disait que à la fin de l'année, ça serait plutôt le départ d'Olivier Létang. Mais là, le timing est un petit peu bizarre. Alors, comment expliquer ça? Peut-être tout simplement qu'on est le 7 février, que depuis 8 jours, le mercato est terminé. Olivier Létang, qui était responsable du mercato, puisqu'il n'y a plus de directeur sportif et de responsable surtout du recrutement, puisque Jean-Luc Buisine est parti, eh bien c'est Olivier Létang qui gérait beaucoup tout ce recrutement et bien le mercato est terminé et ça a peut-être été la date choisie par la famille Pinot pour maintenant chercher un autre président délégué et puis mettre en place tout ce qu'il faut avant le prochain mercato d'été et de nouvelles ambitions, pourquoi pas.
Il a appris quand juste Olivier Létang qu'il était écarté?
Hier, c'est très récent, hein, ça, c'est vraiment il y a quelques heures et forcément il a été très surpris comme ses proches, les hommes qui sont autour de lui. Il a amené beaucoup de gens depuis qu'il est arrivé, de ses anciens clubs de Paris, de Reims notamment. Donc ça a été quand même vraiment un coup sur la tête pour Olivier Létang.
Vous voulez réagir, Damien?
Ouais, mais enfin, il y a forcément beaucoup de choses à dire sur la manière de gérer ce club, sur la personnalité aussi d'Olivier Létang. Quand si on s'en tient aux faits et aux résultats, on peut dire que son arrivée et depuis qu'il est au club, c'est une grande réussite d'un point de vue sportif. On n'a jamais vu autant d'ambition, en tout cas, et le retour des sourires chez les supporters rennais que depuis qu'il est arrivé, avec la finale en Coupe de France, avec la cinquième place l'année dernière. Après, malheureusement, chez Olivier Létang, c'est quelqu'un qui a une grosse personnalité. C'est quelqu'un qui est clivant. C'est quelqu'un qui a un fort ego.
Toi, tu as eu des échanges avec lui, tu l'as connu un petit peu.
Oui, mais on avait échangé à l'époque pour un club, c'est quand il était à Reims. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un forcément qui va prendre des décisions et qui va peut-être en oublier par moment le côté humain.
D'accord.
Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on est un manager, en tout cas, je dis ça à mon humble place, hein, mais quand tu es manager, faut vraiment faire attention au côté humain. Et au bout d'un moment, quand tu as plus d'ennemis que de gens qui te suivent, eh, forcément, tu peux être en difficulté, je pense, et même en étant président. Après, dans un club, la personne la plus importante pour moi, c'est le coach. Le coach, c'est celui qui t'inspire en tant que joueur. C'est celui qui crée une dynamique dans un club. C'est celui qui va te tirer vers du positif. Mais c'est pour ça que le président est très important, parce que c'est lui qui doit décider le coach. Maintenant.
Bah, un coach passe plus de temps avec des joueurs qu'un président.
Pour moi, la personne la plus importante dans un club, c'est le directeur sportif. C'est lui qui est garant de la ligne et de conduite que le club adopte sur le moyen terme. Et les entraîneurs, voilà, tu peux le changer, le remplacer. Ou ça peut être prendre un entraîneur qui va faire une étape pour reprendre après la classe au-dessus de l'entraîneur. Mais c'est le mec qui est, voilà,
qui garant, plus la politique globale
qui est garant
du
de la politique
club.
Sur le long terme.
Aujourd'hui, qui est la personne la plus importante à Marseille, selon toi?
Mais il n'y a pas de directeur sportif, c'est ça le problème?
Oui, mais si, il y en a. Il y en a.
Oui, Penelope Zubizarreta.
Voilà.
Oui.
Donc aujourd'hui, quelle est la personne qui a inspiré qui a inspiré cet espoir,
Damien,
chez les Marseillais?
Damien, je suis d'accord, mais c'est totalement symptomatique d'un club qui est malade et mal géré.
Je suis pas sûr.
Quand l'entraîneur a cette place-là, c'est symptomatique d'un club qui est mal géré.
Je suis pas. Bien sûr. Mais voilà.
Qui est directeur sportif à Rennes?
Il y en a pas.
Il y en avait pas.
Alors, c'est intéressant ce que dit Damien à l'instant, hein, sur l'importance du coach, peut-être prépondérante par rapport au président. Sauf que Pierre-Yves, ce dont on s'est rendu compte vraiment nous aujourd'hui à distance, c'est qu'il y avait une vraie relation affective quand même entre les joueurs et Olivier Létang.
Oui, parce que c'est vrai que ça a été surprenant de voir que au moment de l'entraînement à huis clos, avant ce match de demain contre Brest, les joueurs ont manifesté leur désaccord avec la décision quand elle leur a été annoncée et qu'ils ont refusé d'aller sur le terrain pendant quelques minutes. Et puis que tout est après calmé, mais ça montre bien effectivement que un certain nombre de joueurs, en tout cas, étaient attachés à la personnalité.
C'est normal, non ?
Mais oui, puisque
et la moitié sont venus par lui.
Voilà, puisqu'il est aussi responsable du recrutement, donc il y a un lien forcément aujourd'hui, et il y a un peu ce mélange des genres aussi, je crois, qui n'a pas plu trop du côté de l'actionnaire. Moi, dans l'entourage de l'actionnaire, on m'a dit à un moment donné, quand tu es directeur général, tu n'es pas l'actionnaire, et il avait tendance un petit peu à
être un peu directeur sportif
et voilà, être avoir plusieurs rôles.
Pierre-Yves, quand tu choisis de prendre Olivier Létang dans ton club, tu sais très bien que c'est quelqu'un qui a quand même, qui connaît le football, qui a joué, qui a été professionnel, qui a passé derrière des diplômes de management, ainsi de suite. Et une fois, alors qu'il était à Reims, il faisait un peu la même chose. C'était quelqu'un qui était assez, qui avait plusieurs casquettes.
Omnipotent, ouais.
Omnipotent, exactement. Et donc, fallait aussi peut-être s'y attendre en tant qu'actionnaire.
Et oui, mais ça a été le problème aussi avec Julien Stéphan, quoi. À un moment, je pense qu'il a voulu prendre un petit peu trop de place. Et puis, il n'a pas forcément apprécié que Julien Stéphan prenne autant la lumière, parce que c'est forcé, Julien Stéphan, avec cette victoire en finale de la Coupe de France, il a énormément pris la lumière.
Oui, puis c'est aussi un gros caractère, comme tu le disais, Julien Stéphan.
Il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Il nous a vraiment surpris, Julien Stéphan, je vais vous dire. C'était en début novembre, je crois, alors que tout s'apaise, tout se calme. Et lors d'une conférence de presse, il remet le feu en reparlant de ce mercato et en attaquant son président alors que les choses s'étaient un petit peu apaisées. Et là, il nous a montré que il allait pas se laisser faire et qu'effectivement la lutte était forte entre les deux hommes.
Pierre-Yves, j'ai une question. Tu peux nous faire l'historique un peu, s'il te plaît, même si je le connais, mais pour le rappeler aux auditeurs certainement, de la nomination de Julien Stéphan. Il me semble qu'il est entraîneur de la réserve à l'époque.
Oui.
Que ça se passe pas très bien.
Il veut partir à Monaco.
Voilà. Hein, et avec Thierry Henry. Que ça se passe pas très bien en réserve en termes de résultats.
Oui,
à cette époque-là.
Oui, mais c'est un peu temporaire. C'est quelqu'un qui a vraiment la cote quand même au club et qu'on sent monter peu à peu. On sait que c'est un garçon qui a vraiment du talent.
Du coup, était-ce un choix vraiment d'Olivier Létang qui a décidé de lui donner sa chance, ou alors c'était peut-être, ça venait du dessus.
Ça venait du dessus, et Olivier Létang dit il a 2-3 matchs pour faire ses preuves, sauf qu'il gagne à Lyon.
C'est ça.
Et que dans la foulée, on demande à ce que le contrat soit signé tout de suite.
Exactement.
Julien Stéphan, c'est l'homme d'Épinot. Et derrière, il va chercher ce premier trophée qui est attendu depuis 1971. C'est impossible que la famille Épinot se sépare de lui.
Ouais. Bah, voilà. Du coup, c'est extrêmement clair.
Exactement.
Voilà.
Tout s'explique.
Tout s'explique. Évidemment, il y a une question d'une guerre d'ego, une guerre politique. Non, attends, Jonathan, on accueille Benjamin, supporter Rennais au 32-16. Bonsoir, Benjamin, et bienvenue dans l'After.
Salut, messieurs. Salut
Benjamin.
Bonjour, est-ce que tu as été surpris, toi, quand tu as appris ça, aux alentours de 15h, 15h30 aujourd'hui?
Écoute, oui, forcément surpris du timing, mais c'était l'unique surprise. Comme disait Pierre-Yves, les gens qui suivent le club, il y avait des indices hein, quand même. On voyait la chose arriver, c'est juste qu'on ne s'y attendait pas maintenant.
Et est-ce que ça te fout un peu les boules quand même, quand tu vois que ton club est troisième de Ligue 1, qui depuis 2 ans est clairement en position, en tout cas en pleine ascension, avec des émotions dont on a parlé, dont vous étiez privé pendant de nombreuses années, est-ce que tu as le sentiment que ça va impacter ton équipe?
Écoute, celui qui a les boules ne connaît rien au Stade Rennais.
Bonne réponse.
Le Stade Rennais, faut déjà, pareil, Pierre-Yves pourra en parler. Quand est nommé Olivier Létang, on vient de faire 4 victoires sous Gourcuff. Hein. Et du coup, on retourne tout à ce moment-là, on change toute l'équipe et président et entraîneur. Donc, si tu veux, l'Épinot, on sait qu'il tranche dans le vif. Quand une décision est prise, il ne s'accommode pas d'une forme, ils y vont. Donc pas surpris. Est-ce que ça peut maintenant avoir un impact sur le sportif? Forcément, ça va pas faire du bien. Maintenant, je pense que ça peut être très aléatoire. Concrètement, soit les jeunes de l'effectif soutiennent Stéphan, je pense que c'est le cas, et du coup poussent pour aller chercher un résultat en fin de saison. Soit en effet des cadres comme Nzonzi qui vient d'arriver, hein, par exemple. Nzonzi, il signe pour Létang, hein, il compte pas pour Stéphan. Soit il y a des cadres qui se laissent un peu aller. Mais ça peut aller super vite. Hein. Clairement, tu vois, le week-end prochain, Rennes peut reprendre des points d'avance sur Lyon. Le week-end prochain, il y a Lille-Marseille. Donc, si tu veux, au niveau classement, ça peut aller encore très très vite. Mais... Il ne faut pas oublier que Rennes, leur objectif, c'est top 5. Hein. Ce n'est pas podium.
Ouais, bien sûr, tu as raison là-dessus, Benjamin. Et moi, là où ça me chagrine un petit peu, c'est que je trouve que c'est quand même très dangereux de trancher quand tu es... actionnaire d'un club et que t'as un conflit entre, allez, même si Pierre-Yves nous l'a bien dit, c'est pas le directeur sportif, mais on va dire que c'était, allez, c'était le directeur sportif par acte, de trancher en faveur de ton entraîneur. Un entraîneur, tout va très vite dans le foot, on est bien placé pour le dire en tant qu'observateur, et un entraîneur, c'est quand même une monnaie d'échange assez courante, alors que le directeur sportif, surtout quand tu vois ce qu'a accompli Julien Stéphane depuis qu'il arrive au Stade Rennais, je trouve que c'est un petit peu dur à avaler.
Ok, les gars.
Après, quand tu vois ce qu'a, bah, je reprends tes mots, quand tu vois ce qu'a accompli la famille Pinot dans le milieu des affaires, moi, je ne me permettrais pas de dire qu'ils ont pris la mauvaise décision. Ils estiment qu'aujourd'hui, l'entraîneur peut plus apporter sur le moyen terme que le président.
Mais Benjamin, je te coupe tout de suite. Sauf que le foot, c'est pas comme les affaires, c'est totalement irrassionnel.
Et Benjamin, est-ce que moi, je te coupe encore une dernière... Peut-être quand tu es joueur, au bout d'un moment, ouais, allez, tu vas y penser une semaine ou deux. Mais je peux te dire que ça prend vite le cours et derrière, tu reprends vite le cours de ta saison et tu veux juste performer.
Merci, Benjamin. Ouais, voilà. Conclure en 5 secondes.
Ouais, juste rajouter un dernier truc très rapidement, qui peut prolonger le débat, c'est de se dire maintenant qui va être mis à la place.
Alors justement,
Benjamin,
tu vas écouter. Notre merci. Tu reviens quand tu veux dans l'after. C'est la question que j'allais poser à Pierre-Yves Leroux, parce que c'est vrai que des confrères, notamment d'autres médias comme l'équipe, annoncent Arsène Wenger peut-être comme piste prioritaire pour remplacer, donc en tant que président, ce qu'il n'a jamais fait. Pour remplacer donc Olivier Létang. Pierre-Yves, est-ce que on en parle à Rennes déjà? C'est un nom qui circule.
Tu me demandes si par-dessus Létang, soudain j'ai vu passer.
Bravo,
Wenger. Eh bien, écoute, non, je ne sais pas du tout. Que ça soit un rêve de la famille Pinot, ça, effectivement. Maintenant qu'il arrive dans 3 jours, j'en suis pas certain. Néanmoins, ce que je disais il y a quelques instants, s'il y a cette date qui peut paraître surprenante dans le timing, elle a peut-être ses explications dans la gestion du mercato et qu'il est fini et que désormais il faut mettre en place une nouvelle équipe et que du côté de la famille Pinot, on a déjà quelques idées en tête, forcément.
Certainement.
Voilà.
Et ça ne pouvait pas tenir 2 mois de plus jusqu'à la fin.
Bon, bref, voilà les gars, il faut qu'on avance vraiment. Pierre-Yves, avant de te libérer, juste, puisque tu es à Angers, tu as assisté aux conférences de presse, aux interviews également. Tu as trouvé comment les Angevins, là? Un peu secoués par, non seulement par la défaite, mais également par la lourde semaine qu'ils viennent de vivre?
Ils sont très très fatigués, ça a été les mots de Stéphane Moulin. Tout le monde est très fatigué par l'enchaînement des matchs, mais aussi par ce qui s'est passé évidemment cette semaine. Stéphane Moulin l'a reconnu, il faut passer à autre chose. Ils vont avoir 2 jours et demi de pause, ce qui arrive rarement, et en plus après une défaite. Mais Stéphane Moulin estime qu'ils ont vraiment tous besoin de ça. Ils n'y sont plus depuis quelques semaines déjà au niveau sportif, et là ça s'est pas arrangé évidemment sur ces dernières heures.
Merci Pierre-Yves, on te laisse partir cette magnifique
merci
musique.
Bonne soirée, messieurs.
Eh oui, Michel.
Ça pêche.
Bah oui,
évidemment.
Ça sera une soirée à la Bodega, ça. Hein,
ouais. Michel Delpech, il connaît pas Jonathan Michel Delpech.
Nous, on est là avec Paulo Breitner et Jonathan McCarty et Damien Perrinel. Paulo est là pour nous parler de la Bundesliga, d'un choc demain en Bundesliga et du Borussia Dortmund, bien sûr. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. Nicolas Jamain.
Avec Jonathan McCarty, avec Damien Perrinel. On est dans la dernière ligne droite, dans le premier virage, la dernière ligne droite de l'after, ça veut rien dire, hein, c'est un entraîneur de Ligue 1 qui avait dit ça. Et on est avec Paulo Breitner. Bonsoir Paulo.
Bonsoir Nico, bonsoir tout le monde.
Bonsoir Paulo.
Salut Paulo.
Paulo qui est là tous les soirs quasiment dans l'after, puisque.
Mission Dortmund.
Ouais, non mais on dit plus à nous.
Ouais, passez bon.
On dit Off-Gabe Dortmund.
Off-Gabe Dortmund. Dans 10 jours, Borussia PSG, match 8e de finale aller de Ligue des Champions. D'ailleurs, on vous fait gagner 2 places. Appelez-nous, envoyez foot au 7-32-16 pour gagner 2 places pour le match au Signal Iduna Park. À Dortmund, bien sûr.
Tu vas avoir un maillot de Dortmund qui traîne.
Moi, j'adorais le Dortmund de l'époque. Ouais. Le jeune fluo, le Matthias Sammer et compagnie.
Christian super. Worms.
Derrière. Ouais, Worms. Wow. Ouais. Polo.
Oui.
Tiens, question rapidement, c'est qui le champion SA dans ton pays? Qui c'est le plus payé?
J'ai pas entendu, excuse-moi.
Le mieux payé dans ton pays, là, les joueurs. Là.
Oh, bah, c'est forcément
c'est Robert.
Du Bayern Munich. Ça va être Robert Lewandowski.
D'ailleurs, ouais.
C'est Robert Lewandowski avec Coutinho. 1 600 000 euros par mois.
Pas mal, pas mal.
Coutinho s'en tire bien aussi, quoi. C'est pas mal.
Mmh. Voilà, enfin, il n'a peut-être pas touché ça longtemps en Bavière.
T'as pas tort. Polo, demain, un match à enjeu, un match de haut de tableau. Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund. C'est non seulement un premier gros test pour le Borussia, mais également un match à enjeu pour le Borussia.
Bah, c'est un peu le problème du Borussia Dortmund et son élimination en Coupe d'Allemagne ce mardi. D'ailleurs, juste petite parenthèse, les matchs de mardi et mercredi ont été une véritable ode à la Coupe d'Allemagne, tellement c'était assez extraordinaire. Le problème, c'est que le Borussia Dortmund, évidemment, est rentré à nouveau dans un tunnel de turbulence par cette élimination, première mi-temps catastrophique. Et comme tu le dis, c'est le vrai test que je vous avais annoncé un petit peu au niveau du calendrier. Le vrai problème, c'est que le Borussia Dortmund à l'extérieur n'est pas du tout le même que celui à domicile. Hein. Rappelons que le Borussia Dortmund est invaincu cette saison, toute compétition confondue à domicile, ce qui n'est pas du tout le cas à l'extérieur où ils ont des parcours extrêmement moyens. Et surtout, ils ont donc éliminé en Coupe d'Allemagne, mais en plus, le problème, c'est que s'ils perdent demain à Leverkusen, il va y avoir à nouveau le spectre d'une non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Et à l'inverse, le Bayer Leverkusen de Peter Bosch, qui pareil est sur courant alternatif, eh bien, s'ils perdent demain à domicile, peuvent dire au revoir quasiment à une prochaine qualification à la Ligue des Champions. Donc c'est un match très très important avec beaucoup d'enjeux et avec un autre problème du côté du Borussia Dortmund évidemment, c'est la blessure de Marco Reus qui est catastrophique.
Alors comment ils vont faire, tu penses, toi, si on se projette là sans Marco Reus?
Écoute, moi ça fait un mois que je vous annonce qu'on va passer dans une défense à 4, je l'attends toujours et je pense que je l'attendrai toujours. Donc le vrai problème, c'est que Marco Reus, tu peux pas le remplacer, c'est un joueur particulier, hein, un véritable 9,5, mais qui peut jouer aussi milieu de terrain, enfin meneur de jeu, qui se projette très rapidement. Et donc ils vont jouer, je pense, en 3-4-3. Hazard, qui était un petit peu mis de côté en ce moment, va logiquement retrouver une place de titulaire. Mais quid de Emre Can? Est-ce que tu le fais jouer au milieu de terrain ou est-ce que tu le fais jouer en défense centrale? Et puis il y a l'hypothèse de plus en plus, ils ont lancé depuis quelques semaines, Lucien Favre a lancé un petit jeune du centre de formation qui s'appelle Reina, qui est excellent, qui a marqué un but extraordinaire, j'espère que vous l'avez vu, contre le Werder pour le revenir à 3-2.
Oui, mais bon,
et
voilà,
il a 17 ans, le tendre, problème voilà. C'est qu'il a 17 ans, donc tu peux pas imaginer ce joueur-là titulaire contre le PSG, c'est catastrophique. Par contre, on en parle de plus en plus. Donc le problème, encore une fois, c'est que si tu gardes ton Brandt et Witzel au milieu de terrain, Emre Can forcément, c'est défense centrale à la place sûrement d'Akanji, voire de Zagadou, et puis tu mets Hazard devant, mais bon, c'est... Et puis bon, Guerrero est douteux encore, même si c'est entraîné un petit peu avec l'équipe, il est douteux, c'est possible que ce soit Schultz, mais c'est un peu la configuration que l'on risque d'avoir, y compris contre le PSG. Le problème, encore une fois, Marco Reus est indispensable et c'est un profil qu'on n'a pas.
Ça change clairement le rapport de force là, à 10 jours du Borussia PSG, Damien.
Ouais, c'est évident. Après, Marco Reus, tu me dis, hein, si je me trompe, Polo, avant cette trêve internationale, avant la trêve et depuis le début, il avait quand même, il était un peu dans le dur. Il ratait beaucoup d'occasions, pas très efficace devant le but. Et est-ce qu'il ne peut pas être remplacé poste pour poste quand Haaland n'était pas là? Bah, qui n'avait pas encore signé à Dortmund, justement, peut-être faire un remplacement poste pour poste, Reus, Haaland, même si les profils sont complètement différents, hein, bien entendu.
Alors le problème c'est vrai, c'est que Marco Reus a parfois joué en position de faux neuf, quoi,
dans le 3-4-3, bon,
ça n'a jamais été extraordinaire non plus. Mario Götze, l'hypothèse Mario Götze, moi on n'en parle plus de Mario Götze, mais c'est tout, il est toujours là en attendant. Et le mais c'est vraiment compliqué parce que Haaland sera titulaire, c'est logique, Sancho évidemment, mais je voudrais juste vous donner une petite anecdote si vous voulez qui me semble très parlant de ce qui se passe au Borussia Dortmund. Là, il y a quelques semaines, lors de la 19e journée, vous savez, il y a le match contre Cologne. Et Haaland, pour la deuxième fois la suite, n'est pas titulaire, puisqu'il a encore, et d'ailleurs on n'en parle pas assez, mais aujourd'hui il a encore des petites lésions musculaires, hein, des petits soucis, et donc il est encore protégé par Lucien Favre. Et moi, en ce moment, à le début du match, alors que je vois la compo, j'ai des contacts avec mes copains en Suisse qui sont très proches de Lucien Favre, et ils avaient tous la trouille parce que Haaland n'était pas titularisé. Et donc si Dortmund ne gagnait pas contre Cologne, tu sens que tout le monde allait tomber sur Lucien Favre parce qu'il ne titularisait pas Haaland, et on est un peu dans une phobie aujourd'hui autour de Lucien Favre qui n'a rien à voir avec le Borussia Dortmund et qui est un petit peu, bah voilà, on est rentré à nouveau dans une zone de turbulence avec cette élimination en Coupe d'Allemagne, avec la perte de Marco Reus. Et si demain il y a une catastrophe à Leverkusen, je ne veux pas dire une défaite, mais en quoi s'ils se font exploser par exemple, ce qui est possible, n'oublions pas que Leverkusen l'a remporté par exemple au Bayern Munich lors des matchs années, c'est pas un match facile demain. Et s'ils se font exploser, parce que le vrai problème contre le Werder, c'est pas qu'ils perdent, parce qu'en plus le meilleur joueur du match ça a été le gardien de Brême, mais c'est même pas qu'ils se prennent 3 buts, c'est la facilité avec laquelle ils se prennent des buts. Mais ça, c'est encore pire. Sûr. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué en ce moment.
Mais après, Polo, c'est un peu paradoxal justement de sentir un peu ce délit de sa gueule qu'il y a contre Favre. Parce qu'attends, il gagne demain, T'as quand même le Bayern et Leipzig qui s'affrontent.
Le dimanche, ouais.
Et ils peuvent même être deuxième de la Bundesliga.
Et ça, c'est la, et ça, oui, mais ça, c'est la version, c'est le, tu sais, le verre à moitié vin, le moitié, bah,
exactement. Pardon,
le moitié vin. Le verre à moitié vin, ça, c'est un message phénoménal, Polo. Oui. Le verre à moitié vin, verre à moitié vin.
Polo, c'est verre à moitié vin, verre à moitié bière, on le sait.
Ouais, c'est ça, c'est un lapsus. Mais, mais ça, c'est la vision positive. Moi, je peux te donner la vision négative. C'est, ils se vont éclater demain et le week-end prochain, enfin, le vendredi prochain, ils rencontrent Francfort, qui n'a rien à perdre et qui éclate tout le monde comme ce soir. Ils ont éclaté 5-0 à Augsbourg. Oui. Et puis, tu te dis, ben, ils débarquent contre le PSG et tu te dis, ben, qu'est-ce qui va se passer?
Polo, voilà. Non, il faut qu'on avance. Non. Tiens, Polo, est-ce que tu aimes ce genre de musique? Écoute. Voilà, c'est un peu gênant. C'est la première casserole qu'on a trouvée, celle d'Hollande, l'attaquant du Borussia Dortmund. Ouais. C'est un rap.
Moi, je suis plus Rammstein.
Oui, moi aussi. Nina Hagen aussi, tu vois.
Exactement. La chanteuse de l'Union de Berlin, quand même.
Bien sûr, tu vois. Voilà. On connaît ses classiques. Voilà. Un rap quand il avait 16 ans, donc c'est pas vieux, hein, c'est il y a 3 ans seulement. Voilà, il s'est lancé dans un club de rap, Hollande, voilà.
Ouais, il a bien choisi sa carrière avec le ballon.
C'est un peu une catastrophe, mais c'est un gamin, c'est un adolescent.
Non, c'est une catastrophe, mais je pense que c'est volontairement tragicomique. Mais si, c'est un truc, c'est censé être drôle.
C'est sympa, c'est un gamin.
Tu vois là dans le toboggan.
Merci Polo, à demain soir.
Merci à vous les gars.
Ciao, ciao, bien sûr. Tiens, Quentin, notre auditeur au 32-16 pour le jeu Mission Dortmund. Je rappelle que Quentin, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Qu'il faut que tu trouves la place gagnante dans la tribune pour gagner deux places pour le match Dortmund-PSG. Alors, je t'écoute.
Ouais, alors moi, j'ai choisi la place G2.
G2, attends, je regarde. Ah c'est perdu, Quentin.
Ah, bon, dommage.
Désolé, Quentin, c'est perdu. Désolé. Bah écoute, c'est triste,
cas,
mais bon.
Merci pour tout.
Pas tous gagnés, malheureusement.
Mais tu peux rejouer.
Je vais réessayer la semaine prochaine, Quentin.
Le jeu se
poursuit la semaine prochaine. Excellente soirée à toi.
Ciao, Quentin.
Merci. Salut, Quentin. Merci, Jonathan. Merci, Damien.
Et Nico. Merci, Damien.
Bon, à demain pour l'after, bien sûr, à partir de 22h après la soirée de Ligue 1. Bye bye.
At the Bank of Santander, they've created Stan, a smart bot that can predict the future of remortgaging.
I read Stan, will my mortgage rate go up?
1955 was the last time Newcastle won the cup.
No, and try not to mumble.
Playing, let's get ready to rumble.
Oh.
Meanwhile, at Santander, they can't predict your future, but they'll help secure it with great mortgage rates fixed for up to 10 years. See what's possible at Santander.
Early repayment charges apply. Lending subject to status and criteria. Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.